Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche rétro épisode pilote, le podcast Blueprint en immersion dans le jeu vidéo d'hier et d'avant-hier. Je m'appelle Yann Rieder et je suis accompagné de celui que je pourrais bientôt appeler mon ami de 10 ans, Loula Sinafoubert. Hello Lou.
Salut Yann, ça fait de nous des gens rétro déjà, donc c'est bien du coup. Rétro podcast.
Ça fait de nous des amis rétro, des rétro potes. Au centre de cet épisode pilote, on va se parler d'un jeu qui veut dire beaucoup pour nous. Il s'agit de Pokémon Or et Argent.
Oh,
alors une
oui.
Petite note tout d'abord, cet épisode fait partie de l'opération qu'on appelle la cartouche Labs. Vous pouvez aller voter dès aujourd'hui entre donc la cartouche rétro, qui est cet épisode de pilote, et la cartouche liste, un épisode pilote publié il y a deux jours. Deux variantes possibles de la cartouche sur un sondage dont on vous donnera le lien en fin d'épisode, également disponible sur la description et donc sur l'épisode. Et également sur blueprint.pm à la page de l'épisode. Le choix qui rapportera le plus de voix deviendra une émission à part entière à la rentrée de septembre, aura son propre flux podcast, etc., etc. Chaque voix compte, donc allez foncer toutes et tous, votez pour ce que vous préférez. Allez, c'est parti. Alors Lou, pour commencer, j'ai envie que tu me dises au juste, qu'est-ce que c'est que Pokémon Or et Argent? Tu sens bien la question rhétorique parce que, évidemment, je le connais bien, mais quand même, de quoi s'agit-il?
Alors écoute, j'ai fait des petites recherches parce que figure-toi que je ne connaissais pas du tout ce qu'était Pokémon avant de faire cette émission, c'est formidable, j'ai appris plein de
bien
choses.
Bien sûr.
Pokémon est une série qui a été commencée en 1991, mais le premier jeu n'est sorti qu'en 1996. Hein. Le premier développement fut assez chaotique. Il s'agit là, Pokémon Or et Argent, de la deuxième génération de Pokémon, donc les deuxièmes jeux de la série principale, sortis en novembre 1999 au Japon et en avril 2001 en Europe. Tu vois, le temps qui s'est passé entre les deux, c'est assez hallucinant. Évidemment, maintenant, ce sont des sorties mondiales pour Pokémon. Mais à l'époque, justement, on en parlera, ce décalage, du coup, était assez marqué et a causé plusieurs changements. Faut savoir qu'en 99, quand Pokémon Or et Argent est sorti au Japon, eh ben, les premières versions venaient seulement, donc, d'arriver en Europe. Je pense, bien sûr, à Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. C'est un jeu qui est, comme d'habitude, dans le cas de Pokémon pour la saga principale, développé par Game Freak et édité par Nintendo. Est-ce que tu peux... Alors tout d'abord, j'ai une petite question avant qu'on parle du contexte en fait de la sortie. Est-ce que toi, tu avais Pokémon Or ou Pokémon Argent quand tu étais bambin?
Je suis un homme de goût, évidemment. J'en ai pas exprimé le choix auprès de mes parents, mais évidemment, ils m'ont offert la bonne version à Noël.
C'est-à-dire
je crois que c'est Noël 2001, qui est Pokémon Or, évidemment.
Oh non, mais c'est pas possible. Mais pas de l'or pour un homme, de l'argent pour un homme, enfin. ça ne va pas.
Mon Dieu, c'est très sexiste et classiste ce que tu nous dis là.
Mais non, mais quand on a la peau pâle comme moi, forcément, on prend de l'argent. Donc pour moi, c'était Pokémon Argent. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte est sorti ce jeu Pokémon Or et Argent?
Bon là, en tant que co-auteur de Génération Pokémon, mon cher Lou, t'en sais plus que moi. Tout d'abord, tu l'as dit, hein, long développement, périlleux, un gros projet pas facile à boucler. Satoru Iwata, qui était à l'époque à la tête de HAL Laboratory, donc le studio qui fait les Kirby, pour faire simple, hein, et pas encore ni dans Nintendo au complet, ni non plus à la tête de Nintendo, ça viendra encore plus tard. Satoru Iwata a aidé Game Freak avec un algorithme de compression pour faire rentrer la région de Kanto tard dans le développement du jeu. Le jeu donc est sorti quasiment en 2 ans, entre la sortie japonaise et la sortie européenne. C'est typique pour l'époque, et pour le coup, ça faisait la richesse des magazines de jeux vidéo qui avaient bien le temps, de mois en mois, à bien teaser la sortie de ce jeu. Pokémon bleu, rouge et vert avaient déjà bien lancé la licence sur le marché. La Pokémon Or, là, on peut le dire, satellisée. 6,5 millions de ventes au Japon en 6 mois, de bonnes ventes également aux US et en Europe. Nintendo en espérait beaucoup et n'a pas été déçu. Donc franchement, c'est un sacré succès derrière Pokémon Or et Argent. Le titre fait très clairement le pont entre la Game Boy et la Game Boy Color. Elle est compatible Game Boy original, en noir et blanc, plutôt en vert et vert foncé, avec une encoche dans la cartouche, qui était le moyen de différencier entre cartouche Game Boy et cartouche Game Boy Color. Il y avait un loquet physique qui se mettait quand vous lanciez votre jeu, quand vous poussiez le bouton d'interrupteur pour allumer la console sur une Game Boy. Et donc, du coup, c'était un jeu Game Boy Color, il n'y a pas l'encoche. Et donc, il n'y a pas possibilité de démarrer la Game Boy avec. Mais tout de même, cette cartouche de Pokémon Or ou Argent peut afficher des visuels en couleur pour peu qu'on l'insère dans une Game Boy Color ou dans une Game Boy Advance. Ce qui est quand même pour l'époque assez chouette d'avoir réussi à faire rentrer un jeu non seulement un peu compliqué en termes de tout le contenu qu'il pouvait avoir, mais aussi visuellement, avec d'un côté le noir et blanc, ou plutôt les nuances de gris, et de l'autre côté les couleurs.
Côté contexte, pour ajouter un petit point aussi, il faut savoir qu'à l'origine, ce Pokémon Or et Argent devait être le dernier. Ils pensaient vraiment que ça allait être la fin de licence pour eux. C'était une façon de remercier les fans qui ont fait confiance au premier épisode, et ils se sont dit bah voilà, on va faire un jeu encore plus poussé et tout, et voilà, ils pensaient pas que ça allait encore perdurer après. Donc c'est quand même joli. Il a été conçu comme le Pokémon tel que devait être le tout premier Pokémon, en fait, au final. C'est-à-dire que Pokémon à l'origine c'était 190 créatures, il n'y en a eu que 150 et une, et là du coup
le bleu et rouge était finalement l'épisode du compromis, et là c'est vraiment la vision réalisée.
C'est ça, et ils se sont dit bah voilà, on pourra jamais potentiellement aller plus loin, et peut-être que ça marchera pas autant parce que le jeu est quand même relativement proche, et ils savaient pas qu'ils avaient lancé une licence pour autant, même si le premier Pokémon avait cartonné. En faisant Pokémon 2, ils se sont dit bon, on va aller jusqu'au bout, voilà, on aura monté le projet, mais voilà, c'est pas, ils pouvaient pas savoir que ça allait lancer ça, et ils ont vraiment considéré en fait ce Pokémon là, ils l'ont vraiment fait comme si ça allait être le dernier. Je pense que c'était le cas aussi pour le troisième, moins pour les suivants, mais du coup ils ont essayé de tout donner, et ça se sent en fait dans le jeu clairement.
J'ai envie de te poser une question très générale, puisqu'en fait ça va vraiment être le plat de résistance de cet épisode. Qu'est-ce qui t'a marqué avec Pokémon Or et Argent ?
Alors moi j'ai découvert Or et Argent par les magazines non officiels en fait, qui étaient en vente chez les marchands de journaux. Donc c'était vraiment une époque où internet c'était pas encore ça. Et là du coup, comme le jeu était déjà sorti en fait à l'époque au Japon, Et que nous on connaissait à peine les jeux Pokémon, il y avait je sais pas qui faisait ça, mais vraiment c'était extrêmement bizarre, hein. C'était des magazines tout à fait non officiels, une sorte de fanzine en fait, très mal traduit avec des infos parcellaires, mais t'avais le Pokédex complet de la deuxième génération, bien avant qu'il ait nom en fait en français. Donc c'était assez hallucinant, tu dis il y aura ces créatures là en fait dans le prochain jeu Pokémon, et tu dis on sait déjà tout, et j'allais acheter, ça coûtait je sais pas combien ça coûtait, ça devait être 5€ je crois ces magazines là, et j'étais complètement fasciné. On voyait donc Picabloo à l'époque, hein, c'est Marill que tout le monde appelait Picabloo, ce genre de choses, et c'est comme ça que j'ai en fait découvert Pokémon. Puis ça a été par l'émulation en fait, ce Pokémon Or et Argent, parce que du coup forcément le jeu était déjà sorti, donc il était disponible en émulation. Déjà à l'époque c'était assez facile, c'était chez un ami du coup qui l'avait émulé, et on jouait, je crois que c'était une fan trad, donc c'était un petit peu compliqué, non je crois même que c'était directement en japonais, oui je m'en souviens, ça y est, c'était en japonais, et on devait apprendre par cœur du coup ce que les symboles, enfin ce que les kanji du coup signifiaient comme attaque. Donc c'était compliqué, hein. Je saurais toujours pas, j'ai joué à Pokémon noir et blanc comme ça, mais ça reste assez assez complexe, et ça m'avait marqué parce que j'étais complètement fasciné, et le jeu avait beau être très semblable graphiquement, j'avais l'impression qu'il y avait eu 10 000 ans qui s'étaient passés entre les deux, tellement ça allait beaucoup plus loin, parce que ça peaufinait vraiment toutes les mécaniques du premier. Il y avait plein de nouvelles choses, il y avait les bébés Pokémon, il y avait des évolutions qui étaient puissantes, tout ça. Il y avait le cycle jour-nuit, il y avait les objets qu'on pouvait porter, donner aux Pokémon, il y avait différents types de Pokéball qu'on pouvait fabriquer avec les noix grumes. Graphiquement, les combats étaient beaucoup plus soignés, il y avait les couleurs aussi, tout simplement, l'ajout des couleurs c'était énorme, et il y avait un rééquilibrage complet, et le jeu me paraissait tellement plus beau. Les sprites de la première génération, ils étaient assez bizarres quand même. Par moments, c'était un petit peu, c'était très dérangeant par moments. Là, tout était extrêmement travaillé. Je me souviens quand j'ai vu What What la première fois, je l'ai trouvé magnifique, quoi. Le cri de What What me semblait complètement fou. C'est juste un mouton électrique qui fait un petit qui est complètement ridicule aujourd'hui. Mais à l'époque, ça m'avait marqué. Je me dis, waouh, c'est un jeu Game Boy. Il est aussi aussi poussé, aussi beau. C'est formidable. Et la cerise sur le gâteau, c'était Kanto, quoi. Il y avait 16 arènes dans le jeu. Il y avait un post-game qui reprenait en fait le premier jeu. Donc le jeu te paraissait d'une longueur, d'une densité. Le premier était déjà une épreuve de force à faire tenir dans une cartouche plus grosse que toutes les cartouches jusque-là sur Game Boy. Et là, le deuxième, et vas-y qu'on te fout une aventure encore plus grosse. C'était de la folie, en fait, pour moi, d'avoir un jeu aussi dense sur Game Boy. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et j'y ai joué pendant des centaines d'heures. J'avais bloqué le compteur à 255. À l'époque, le compteur d'heures, il se bloquait comme ça. Mais j'y avais joué, mais probablement plus d'un millier d'heures. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui de ce jeu ?
Alors, ce que j'en retiens, tout d'abord, c'était que ma première approche à la licence Pokémon, c'était pas le jeu vidéo, c'était l'animé. Merci d'ailleurs à la Suisse romande, au fait d'habiter à Genève, qui m'a permis à la fois de capter la TSR, la télévision suisse romande, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, et TSR2 qui diffusait, qui avait un créneau pour les enfants et qui diffusait Pokémon là-dedans, et également TF1, puisque du coup je pouvais profiter d'une double diffusion de l'animé Pokémon. Merci beaucoup à ces deux chaînes donc qui m'ont permis de le découvrir et de m'accrocher à la licence Pokémon. C'est d'ailleurs en partie ça qui m'a attiré vers le jeu vidéo, entre autres choses. Donc c'est assez marrant l'effet que l'animé Pokémon a eu sur ma vie plus en général. C'était du coup Pokémon Or, mon premier jeu Pokémon, mais aussi mon premier jeu vidéo tout court, avec ma Game Boy Color qui était vraiment ma première console à moi, après plusieurs mois de louer des consoles de jeux à la ludothèque du coin. Qu'est-ce que j'en retiens vraiment en termes de jeu maintenant? Là, j'ai fait brosser un petit peu le contexte. Tout d'abord, et c'est le premier truc auquel je pense, c'est peut-être ce qui me fait idéaliser le jeu, d'une certaine manière, c'est la bande son variée qui porte bien les différentes émotions qu'elle souhaite transmettre, que ce soit la ville calme au départ, l'écran titre, etc. Pour moi, c'est une bande son extrêmement cosy, où j'ai mes habitudes, je joue un morceau, je me remémore les instants de jeu, etc. Vraiment, de la chiptune, très bien exploité sur cette Game Boy et Game Boy Color qui pouvait pas en faire énormément. Une exploration de ville en ville qui, pour être clair, transgresse les habitudes. Alors certes, on parle d'habitude, on avait bien que Pokémon rouge, bleu et jaune pour faire la différence. Mais encore aujourd'hui, l'exemple d'entrer dans une ville et de devoir passer à une autre, de l'autre bout d'un bras de mer, parce que la championne d'arène est trop occupée, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et ça me marque encore aujourd'hui.
T'avais ça quand même un petit peu déjà dans Pokémon Rouge et Bleu, parce que par exemple, Ondine elle est pas dans son arène quand t'arrives à Azuria, faut que t'ailles la chercher chez Léo. Après Safrania,
ouais, mais de là à te faire changer de ville, là c'est des conditions pour accéder à l'arène de l'arène chaude de ta région. Mais dans le cas de l'arène d'Oliveville, il faut monter dans un phare, te faire dire que non, il faut que t'ailles ailleurs. Potentiellement même récupérer une CS si tu l'as pas encore. Ensuite traverser le bras de mer, aller voir je sais plus comment s'appelle la ville du coup que tu vas voir insulaire au bout sud-ouest.
Irizia.
Irizia. Combattre dans une arène qui ressemble plus à un dojo qu'autre chose et repartir dans l'autre sens. Donc c'est quand même et en chemin évidemment tu croises des ruines sous-marines que tu peux pas encore explorer mais qui sont très prometteuses pour le post-game. Donc c'est extrêmement satisfaisant, oui. La façon dont ils ont mis ça en place.
Même de manière générale, l'exploration au global dans cet épisode, elle est beaucoup plus poussée que dans le premier. T'as plein de petits trucs à faire, en fait, à côté, tu vois. Et même des lieux qui sont pas forcément hyper importants, mais qui se multiplient. Par exemple, dans le premier, t'avais la centrale que tu faisais généralement dans le post-game. Mais là, par exemple, t'as la ferme des écrémeux, que je trouvais juste génial, qui ne sert presque à rien, mais qui, en fait, ajoute de la crédibilité, en fait, au monde. T'as le parc des insectes, pareil, qui fait pas grand-chose, mais qui est là. Et t'as plein de petits endroits comme ça qui rajoutent, en fait, à la mythologie, qui était un truc qui était pas forcément présent dans le premier, mais qui est extrêmement important dès ce deuxième Pokémon, avec les mythes autour des tours. Tu te souviens, j'imagine, bien sûr, à Rosalia, c'est à Rosalia, il me semble, qu'il y a les deux tours, la tour cendrée et la tour je sais plus comment, qui du coup abritait Ho-Oh et Lugia, et voilà, avec l'histoire donc de Raikou et Taiyasukun qui ont été ressuscité par Ho-Oh. Et voilà, donc tu apprends en fait, c'est vraiment les débuts de la mythologie Pokémon et de toute cette narration qui se déroule en dehors de l'aventure principale et qui te pousse à explorer tous les petits coins. Et c'est vrai que t'as beaucoup d'explorations extrêmement intéressantes comme ça dans Pokémon Or et Argent.
Je voulais rebondir sur un autre point que tu as relevé, c'est le cycle jour-nuit, qui donne vraiment une impression de monde vivant, avec la variation selon l'heure et le jour de la semaine, de différents événements, de certains Pokémon à capturer, les coups de fil que tu peux recevoir ici là, et qui donnent là aussi l'impression d'un monde vraiment vivant. Et au-delà même, sur le cycle jour-nuit, on parle beaucoup aujourd'hui, notamment sur les OS mobiles, les systèmes d'exploitation d'appareils mobiles, que ce soit Android ou iOS, du fameux mode nuit où tout devient... les couleurs sont inversées, c'est très joli, sur les écrans OLED, c'est magnifique, c'est beaucoup plus lisible justement quand on s'en sert en pleine nuit. Et ben j'apprécie beaucoup que tout le jeu ait une seconde apparence nuit dans énormément d'endroits, tous les endroits en extérieur en fait, où en gros tout est un petit peu plus sombre, à l'exception des personnages, et où les fenêtres, etc., dans des bâtiments qui ont une lumière allumée, la fenêtre pour le coup a des tons plus chauds dans les sprites. Je trouve ça vraiment appréciable, et à chaque fois qu'un jeu Pokémon sort sans ce cycle jour-nuit, notamment d'un point de vue visuel, même si ça changerait rien au niveau des événements et des Pokémon à capturer, franchement, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est plutôt l'aspect visuel, parce que c'est tellement chouette de pouvoir explorer un monde comme ça, le même, mais la nuit. C'est vraiment extrêmement appréciable.
Ce que je trouve dommage...
C'est un petit côté Animal Crossing, en fait, que j'apprécie beaucoup.
Oui. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont pas... Il y avait une mécanique extrêmement intéressante qui a pas été... très réutilisé malheureusement dans la licence, c'était qu'en fonction de l'heure effectivement et du moment de la journée, tu croisais différents Pokémon. T'avais des Pokémon nocturnes, c'est pour ça qu'ils ont choisi Oot-Oot par exemple, qui est donc une petite chouette qui apparaît que la nuit. Ou t'avais des Pokémon qui étaient plus matinaux, c'était par exemple le cas de Coxie, qui est donc une coccinelle que tu croisais surtout le matin. Et voilà, ça c'est quelque chose qui a disparu. On garde surtout l'idée des Pokémon par lieu, mais pas forcément en fonction de l'heure de la journée. Et c'est dommage parce que tu parles d'Animal Crossing, et bah c'est pareil en fait dans Animal Crossing, tu croises pas les mêmes espèces animales à collectionner en fonction de l'heure de la journée, plus aussi de la saison. Donc voilà, je trouvais que ça ajoutait beaucoup de réalisme en fait finalement à Pokémon, et c'est dommage qu'ils aient pas persévéré dans ce sens-là, parce que c'est aussi tout ce qui fait le charme pour le collectionneur, pour le côté safari au-delà du combat en fait. Là on était vraiment sur comment perfectionner la capture. Tu sens que c'était pensé vraiment pour la capture, comme le parc des insectes d'ailleurs. Comme les nouveaux noix grumes qui apportaient des nouvelles Pokéballs. C'était un jeu qui était beaucoup plus axé sur la capture, alors que j'ai l'impression que les derniers épisodes sont plus axés en tout cas vers le combat.
T'as des concours de capture au parc, je crois que c'est le parc naturel, c'est ça ?
Oui.
T'as des concours de capture qui sont justement liés encore une fois à certaines heures et à certaines journées, et ça a son petit côté Animal Crossing encore une fois, et je trouve ça mais vraiment extrêmement appréciable. Il y a plein de choses comme ça qui sont cool. Je note aussi sur le cycle jour-nuit, il y a quand même une évolution notable, c'est celle d'Evoli en Octalie, où il faut que ce soit la nuit, que ton Pokémon soit heureux et qu'il gagne un niveau
et Mentali le jour.
Et je voulais simplement le placer parce que Noctalie a un des meilleurs designs de Pokémon. Merci beaucoup, bisous. Voilà. On compte également 251 Pokémon, 2 régions dans ta poche. On est en 99/2001. C'est fou, c'est un aspect best-of dès le deuxième épisode, alors on comprend mieux avec la précision que tu nous as fait tout à l'heure que c'est finalement le rêve réalisé par Game Freak, enfin quand même, c'est assez dingue. Je note aussi qu'on peut pas encore courir dans cet épisode-là, qu'on se déplace encore soit à vélo, soit à pied, et c'est franchement relou, c'est un des trucs les plus désagréables quand tu y rejoues aujourd'hui. Lou, oui ?
Ah non, je disais, j'acquiesçais simplement.
et deux autres choses, non une autre chose à noter encore, c'est l'interopérabilité avec Pokémon bleu, rouge et jaune. Vous pouvez vous échanger des Pokémon avec la machine à remonter dans le temps, qui vous est d'ailleurs teasé au fil du jeu. Et là aussi, je trouve le concept forcément qui joue avec les limitations des cartouches d'origine, mais qui là aussi est baboum pour avoir permis ça. C'est assez heureux en tout cas que ça ait été mis en place. Alors Lou, une bêta de Pokémon Or et Argent a fuité il y a quelques temps désormais. Qu'est-ce qu'on y trouvait dans cette version bêta, donc qui n'est pas la version finale du jeu, qui est une version de travail chez Game Freak?
C'est ça. Alors, c'est C'est très différent en fait, c'est assez surprenant d'ailleurs, le bestiaire était assez différent, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bébés qu'à l'origine. Il y en a 8 hein, dans la deuxième génération des bébés, là il y en avait beaucoup plus, il y avait des bébés Goupix, des bébés sacs de nœuds, enfin c'était la folie, il y avait un bébé pour tout, et il y avait aussi des évolutions de certains Pokémon qui n'évoluaient pas à l'époque, comme justement sacs de nœuds, qui avait donc son boule de nœuds hein, qui est apparu en l'occurrence dans la quatrième génération. Mais il ressemblait pas à ça à l'époque. Mais tu avais par exemple une évolution de métamorphe qui était de type acier. Donc des trucs qui étaient extrêmement différents. Et des Pokémon très intéressants aussi qui n'ont jamais vu le jour. Certains sont apparus bien plus tard, ont été repensés. Mais voilà, ça montre à quel point un projet peut évoluer. Parce que vous verrez plein de vidéos par exemple sur YouTube de gens qui ont pu essayer cette bêta et qui montrent un petit peu l'envers du décor. Mais c'était vraiment tout autre chose. Et ça montre à quel point le projet a pu évoluer et a pu se transformer en fait. Parmi ces créatures, moi j'aurais vraiment bien voulu les bébés Goupix, etc. Enfin, c'est moi je suis très très fan des bébés et ça fait justement partie des Pokémon que j'ai préféré dans cette deuxième génération. Les Melo, les Toudoudou, les Liputi, etc. Je suis aussi très fan des évolutions par branche qui malheureusement sont là aussi quasiment disparus. Par exemple, il y avait Tetart qui évolue en Tartar dans la première génération. Il a une nouvelle évolution alternative dans la deuxième, qui est Tarpo, que j'adorais. Et Ortide, pareil, c'était soit Rafflesia, soit Joliflore, du coup avec une pierre soleil. Ça fait vraiment partie de mes Pokémon que j'apprécie énormément dans cette deuxième génération.
Je peux me permettre de faire une petite parenthèse parce qu'on parle du coup de nos Pokémon préférés et je ne sais pas si on aura l'occasion déjà de poursuivre ce pilote avec d'autres épisodes.
J'allais te poser la question. Quels sont tes préférés de la deuxième génération?
Alors justement, je voulais faire une petite exception, je suis désolé, avec ceux de troisième génération, parce que tu parlais justement des évolutions à branches et ce genre de choses. Ça me fait beaucoup penser à ce Pokémon qui, je me souviens plus du nom, mais qui évolue à partir d'un Pokémon assez commun dans Ruby et Saphir sur Game Boy Advance, et qui est très difficile, enfin la méthode d'évolution est très compliquée, et qui est un Pokémon qui a un PV, quoi qu'il arrive, et qui résiste à tout sauf à l'attaque parfaite contre lui qui est d'un certain type. Voilà, exactement.
Oui, alors c'est super efficace contre lui. C'est la troisième génération effectivement, c'est Moonja qui est donc c'est l'évolution donc de c'est la mue en fait de Ningal qui évolue en Ninjask et il faut avoir une place et une Pokéball dispo pour qu'il puisse apparaître dans l'équipe.
Sans rire, à chaque fois que je pense au concept de ce Pokémon, ça me fait sourire parce que je trouve que le concept du Pokémon est génial. Il résiste à tout, sauf à quoi il résiste jamais. Et je sais pas, j'adore ça. Pour revenir à Pokémon Or et Argent, désolé pour cette parenthèse, les Pokémon que j'aime le plus, j'aime beaucoup Ho-Oh, parce qu'il est majestueux à la fois dans le premier épisode ever de l'anime et également dans l'écran titre du jeu Noctali, je l'ai dit. On va retirer ceux de la première génération évidemment parce que c'est triché. J'aime bien Germignon, j'aime bien les trois starters
mignon.
En vrai.
Oui, ils sont pas mal. Ah, peut-être moins pour Hérissandre du coup. Je le trouve un peu trop basique. Je trouve que Caïminus est extrêmement bien pensé. J'adore ses évolutions.
Caïminus est devenu un mème.
Ouais, il est génial Caïminus, son énergie, il est extrêmement drôle, et Germignon est tellement mignon. D'ailleurs, l'évolution Macronium, hein, entre Germignon et Meganium, a aussi été modifiée entre la bêta et la version finale. Il était vraiment pas très beau avant, ils ont bien fait de le changer en tout cas.
Bon, bien. Eh ben, écoute, dans ce cas-là, j'ai une question à te poser, mon Charlot. Est-ce qu'on peut s'y mettre aujourd'hui, même si, bon, la marche quand on prend pas le vélo, c'est un peu lent. Est-ce qu'on peut quand même relancer Pokémon Or?
Alors, écoute, pour l'avoir refait, tout comme Pokémon Bleu et Rouge à l'époque pour la rédaction du livre il y a quelques années, j'ai souffert sur Pokémon Bleu et Rouge parce que c'est vrai que les mécaniques étaient extrêmement différentes. C'est aussi le cas dans Pokémon Or et Argent. C'était vraiment des RPG japonais à l'ancienne. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le one shot. Hein, quasiment, il faut un ou deux coups pour battre un Pokémon adverse. En gros, à l'époque, non. Les combats étaient beaucoup plus longs, beaucoup plus posés. Les statistiques étaient calculées différemment. Hein, ça a été modifié dès la troisième génération. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compatibilité entre or et argent et les versions suivantes. Mais là, pour le coup, je trouve que ce jeu est beaucoup plus jouable, beaucoup plus praticable, en fait, que le tout premier, parce qu'il a été entièrement rééquilibré. Faut savoir qu'il y a deux types en plus, justement, pour pouvoir rééquilibrer, à savoir le type acier et le type ténèbres, qui sont là, justement, pour corriger un petit peu, notamment, la surpuissance du type psy, qui en première génération était clairement abusé. Là, avec le type ténèbres, ça le calme un petit peu. Et même en termes d'attaque, il y a beaucoup plus de techniques de combat qui fait que ça équilibre. Par exemple, à l'époque, il y avait une seule technique offensive de type spectre qui était l'échouille, qui était pas puissante du tout. Et l'autre technique ne faisait que des dégâts en fonction du niveau du lanceur. Donc, en gros, il n'y avait pas de technique spectre, ça ne servait à rien, malheureusement. Donc voilà, ça a été bien repensé, ce qui fait que le jeu est équilibré et beaucoup plus praticable que le premier. Il est plus varié en termes d'environnement, c'est très intéressant. Il y a 16 arènes au total, il y a plein de trucs à explorer, une durée de vie incroyable. Et voilà, enfin, c'est assez cool. Enfin, moi, vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à le refaire. Et d'ailleurs, si on veut le refaire actuellement, où est-ce qu'on peut y jouer ?
Alors, tu peux le retrouver sur console virtuelle 3DS en téléchargement et en magasin. Les deux possibilités sont là. En magasin, ce sera évidemment une boîte dans laquelle vous allez retrouver un code. Ceci dit, la boîte fait très rétro, justement, puisqu'ils ont repris énormément de la boîte originale sur Game Boy Color, y compris sur le carton réfléchissant. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Ceci dit, si vous allez aujourd'hui dans une boutique et que vous l'achetez vraiment neuf, vous avez plus de chances de tomber sur Crystal, la version complémentaire qui est ressortie plus tard qu'or et argent sur donc 3DS, avec un peu plus de scénar dans la version Crystal. D'ailleurs, t'as une petite précision, Lou, à faire à propos de cette version console virtuelle 3DS.
Oui, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est compatible avec la banque Pokémon, ce qui signifie que les Pokémon que vous allez capturer dans ce jeu, tout comme les versions d'ailleurs rouge et bleu sur console virtuelle, exactement, et jaune également, effectivement, tu viens de le préciser, sont compatibles avec la banque Pokémon. Vous pouvez donc transférer à sens unique, hein, les Pokémon que vous envoyez du coup dans la banque, vous ne pourrez plus les récupérer dans ces versions-là, mais par contre vous allez pouvoir les remettre dans vos cartouches récentes de 6e, de 7e génération, puis dans le Pokémon Home qui servira pour épée et bouclier. Donc vous avez tout intérêt à les choisir, d'autant plus que les Pokémon que vous importerez, ils auront leur talent caché.
Bien. Du coup, tu sais, d'autres possibilités d'y jouer. On a également le remake DS, Pokémon Or Heart Gold, qui peut tourner sur DS et sur 3DS, mais qu'on ne trouve qu'en cartouche. Pas de téléchargement possible pour celui-là. Ceci dit, il se trouve assez facilement en loose en marché d'occasion, parce qu'il s'est extrêmement bien vendu aussi. À noter que si vous mettez votre cartouche DS sur votre 3DS, comme toute cartouche DS dans une 3DS, soit ça va étirer et être baveux en termes d'image, soit ça ne le sera pas et vous allez avoir des bandes noires. Donc dans l'idéal, prenez-vous une DS, une DSi, une DSi XL ou une DS Lite pour pouvoir en profiter dans de meilleures conditions.
Enfin, très bon remake hein, au passage.
Hein, oui, très bon remake, effectivement, et dans lequel vous pouvez courir. Oula, bonne nouvelle. En occasion également, une cartouche Game Boy, c'est possible. Ceci dit, la pile interne a de bonnes chances d'être morte, donc c'est à votre risque et surtout à votre péril. Voilà, on a fait le tour. C'est la fin de cet épisode pilote de la cartouche rétro. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais voter dans le cadre de cette opération La Cartouche Labs. Est-ce que vous avez préféré ce format rétro ? Est-ce que vous avez préféré le format liste que nous avons publié avant-hier ? Le lien pour voter est à l'URL suivante, tinyurl.com/lacartouchelabs en un mot tout attaché. Il est également disponible le lien vers le sondage dans la description de cet épisode et sur la page de l'épisode sur blueprint.pm. Donc rendez-vous là-dessus si vous n'avez pas récupéré, donc tinyurl.com/lacartouchelabs. Si vous n'avez pas encore écouté le pilote de la cartouche liste, donc l'autre labs, foncez l'écouter puis votez. Voilà, merci beaucoup Lou.
Bah merci à toi Yann.
@lagrixleserveur sur Twitter, @thingshd pour moi. On se retrouve donc très prochainement, on se retrouve en septembre. Allez, à bientôt. Ciao ciao.
Salut.